Le don du Saint-Esprit. Texte biblique, Évangile selon Luc, chapitre 11, versets 10 à 13. Quiconque demande, reçoit, et quiconque cherche, trouve, et il sera ouvert à celui qui heurte. Que si un enfant demande du pain à quelqu'un d'entre vous qui soit son père, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il au lieu du poisson un serpent? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes méchants, savez bien donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? En réfléchissant à l'exposé rapide que j'ai fait de l'œuvre du Saint-Esprit, quelques-uns de mes auditeurs se sont dit peut-être que l'importance capitale donnée à cette œuvre pourrait bien nuire à l'idée que nous devons nous faire de celle de Christ, mort à cause de nos offenses et ressuscité à cause de notre justification. Je comprendrai d'autant plus cette crainte que je l'ai éprouvée jadis à plusieurs reprises. Mais si l'on étudie de près ces deux doctrines, la doctrine de l'expiation par la mort de Christ et la doctrine de l'œuvre de l'Esprit, on arrive à se convaincre que, loin de se nuire, elles s'accordent parfaitement entre elles. Il faudrait avoir compris bien imparfaitement l'œuvre du Saint-Esprit pour qu'elle fît oublier celle de Jésus-Christ. Celle-ci est en effet la cause et la condition indispensable de celle-là, de telle sorte que plus on exalte l'œuvre de l'Esprit, plus on doit exalter aussi le sacrifice de Christ qui nous a donné l'Esprit. Comme nous l'avons vu dans notre première étude, le résultat de la réconciliation accomplie par ce sacrifice a été la restitution à l'humanité du Saint-Esprit perdu pour elle à la suite de la chute. La rupture des relations entre Dieu et l'homme a consisté, avons-nous dit, en ce que le Saint-Esprit a été ôté à l'homme, et dans cette conséquence de la chute sont renfermées toutes les autres. Le rétablissement de ces relations par Christ rend possible le retour du Saint-Esprit dans l'homme, et cette grâce, qui est l'effet de l'œuvre de Christ, comprend toutes les autres grâces, soit dans cette vie, soit dans celle qui est à venir. Ainsi, sans l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, l'œuvre du Saint-Esprit est impossible. Mais d'autre part, sans l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de chaque individu, l'œuvre de Christ est, pour l'individu, complètement inutile. C'est pour lui comme si Christ n'était pas venu sur terre, comme s'il n'était pas mort, pas ressuscité, comme s'il n'était pas. Cette double vérité est établie par ces deux déclarations, l'une de l'apôtre Jean, « L'Esprit n'avait pas encore été donné, ou plus littéralement, n'était pas, n'existait pas pour l'humanité, parce que Christ n'avait pas été glorifié. » Évangile de Jean, chapitre 7 et verset 39. Et l'autre, de Jésus lui-même, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra point à vous. » Évangile de Jean, chapitre 16 et verset 7. L'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. Qu'est-ce à dire, sinon que le don du Saint-Esprit, et par conséquent l'œuvre du Saint-Esprit, dépendent de l'œuvre de Jésus-Christ, comme l'effet dépend de sa cause. De notre côté, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra point à vous. Que signifie cette parole sinon que l'œuvre de l'Esprit est le complément tellement indispensable de l'œuvre de Christ que le départ de Christ, qui en est la condition, doit être un sujet de joie pour ses disciples. Ces deux œuvres se complètent donc l'une l'autre et se fondent l'une dans l'autre. C'est Jésus qui sollicite du Père l'envoi du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que le Père le donne à ceux qui croient en Jésus. Et, d'un autre côté, c'est Jésus que glorifie le Saint-Esprit dans le cœur des croyants. C'est la personne de Jésus qu'il fait habiter en eux, tellement qu'avec Paul, ils acquièrent le droit de dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». C'est donc la vie de Jésus, la nature de Jésus, les sentiments de Jésus, les vertus de Jésus qu'il leur communique. C'est à l'image de Jésus qu'il les forme, d'après le modèle qu'il nous a laissé. Sans Jésus, le Saint-Esprit n'a rien à reproduire dans le cœur des fidèles. Ôter Jésus et la parole de Jésus qui nous l'a conservée. C'est comme si, dans l'atelier du photographe, vous ôtiez la personne dont le soleil doit fixer les traits sur la plaque préparée pour les recevoir. De ce qui précède, on peut conclure que l'action du Saint-Esprit n'a pas été dans l'ancienne alliance ce qu'elle est dans la nouvelle, puisque le sacrifice de Christ et sa glorification n'avaient pas eu lieu. En effet, l'étude attentive des textes confirme pleinement cette pensée. Ce n'est pas que le Saint-Esprit soit absent de l'ancienne alliance. Comme Christ y prélude à son incarnation par une activité préparatoire dont le peuple israélite est particulièrement l'objet, le Saint-Esprit prépare aussi sa venue dans le cœur des fidèles par une œuvre que l'on peut facilement constater et caractériser. Il y a donc aussi sur ce point des rapports entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Mais aussi, et peut-être surtout sur ce point, ces deux économies diffèrent profondément entre elles. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit agit sur les fidèles, mais il ne vient pas de sa personne demeurer dans les fidèles et demeurer en eux d'une manière permanente. Il apparaît à l'homme, il ne s'incarne pas dans l'homme. Son action est intermittente. Il va et vient comme la colombe que Noé laissait sortir de l'arche et qui allait et venait sans se poser nulle part. Tandis que dans la nouvelle alliance, il demeure, il reste dans le cœur comme la colombe, son emblème, que Jean-Baptiste vit descendre et se poser sur la tête de Jésus. Fiancé de l'âme, l'Esprit vient voir fréquemment sa fiancée, mais il n'est pas encore un avec elle. Le mariage ne se consomme qu'à la Pentecôte, après la glorification de Jésus-Christ. Cette différence essentielle se remarque dans le choix des expressions. Il est dit fréquemment des prophètes et de certains personnages, « L'Esprit fut sur eux, l'Esprit les saisit. Ils étaient saisis, puis délaissés par l'Esprit, ressaisis, puis délaissés de nouveau. » De telles expressions ne se rencontrent pas dans le Nouveau Testament. Du reste, Jésus a, dans un de ses derniers discours, dit en un mot cette différence. « L'Esprit demeure avec vous, disait-il à ses apôtres, et plus tard, c'est-à-dire depuis la Pentecôte, il sera en vous. » En vous. C'est là sans doute un bien petit mot, dit notre frère Émile Guerre. Mais tout petit qu'il est, il n'en caractérise pas moins toute une économie, celle qui allait commencer alors. L'Ancien Testament renferme des prophéties qui annoncent cette incarnation de l'Esprit dans le cœur du croyant, comme il en a qui prédisent celle du Fils dans notre chair. « Je répandrai, dit Ésaïe, des eaux sur celui qui est altéré et des rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur ta postérité. » Ésaïe, chapitre 44, verset 3. Dans Joël, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Et même en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les serviteurs et sur les servantes. » Plus tard, Ézéchiel répète et précise la même promesse. « Je vous donnerai un nouveau cœur. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous garderez et accomplirez mes ordonnances. Ailleurs, je ne leur cacherai plus ma face depuis que j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël. » Enfin, Zacharie, l'un des derniers prophètes, annonce aussi que Dieu répandra sur la maison de Dieu et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, et qu'ils regarderont vers celui qu'ils auront transpercé, et ils emmèneront deuil quand on mène deuil sur un fils unique. Jean-Baptiste, le médiateur entre l'ancienne et la nouvelle alliance, commence son ministère par ces paroles prophétiques. « Pour moi, je vous baptise d'eau, en signe de repentance, mais il en vient un qui est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Toutes ces promesses sont claires et positives, émouvantes, mais il en est une qui me paraît les surpasser toutes. La voici, et c'est sur elle que j'appelle votre attention. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui heurte. Que si un enfant demande du pain à quelqu'un d'entre vous qui soit son père, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Que ces paroles sont touchantes! Quel encouragement pour ceux qui désirent sincèrement obtenir le Saint-Esprit! Oh, si tous ceux qui ne l'ont pas, rendus par notre première étude attentifs à l'état où ils se trouvent, étaient venus ici, non par habitude ou par forme, mais pour apprendre de la parole de Dieu par quels moyens on obtient le Saint-Esprit. S'il y avait ici des cœurs affamés et altérés, des cœurs qui demandent, qui cherchent et qui heurtent, des enfants désireux du pain de vie, combien ma tâche serait belle, car je vous annonce une grande joie, et qui sera pour tout le peuple, c'est que sans argent et sans aucun prix, Dieu donne le Saint-Esprit à quiconque le demande. Oui, à quiconque, il n'y a pas d'acception de personne. Pour certains dons extraordinaires du Saint-Esprit, Dieu a favorisé certains hommes. Tous n'ont pas eu le don des langues, ou celui des guérisons, ou celui de prophétie. Actuellement encore, tous n'ont pas les mêmes dons spéciaux du Saint-Esprit. Dieu les répartit suivant les besoins de son gouvernement. Mais quant au Saint-Esprit lui-même, le don par excellence, l'auteur et la source de tous les autres, il est à disposition de tous les hommes. Celui-là seul en est privé, qui veut l'être. Le nombre ou la nature des péchés commis dans le passé ne constitue pas un obstacle. Vous auriez passé votre vie dans l'infamie et dans le crime, souillé votre cœur par la présence d'idoles impures, abjectes. Vous pouvez devenir les temples de Dieu par le Saint-Esprit si vous vous soumettez à l'unique condition requise. Cette condition est de demander. Demander, telle est la seule chose que Dieu exige. Demander, rien que cela, mais il est vrai, ce que la Bible appelle « demander ». Car il y a telle demande pour le monde qu'il n'en est pas une pour Dieu. Est-ce donc qu'il faut du talent, de l'éloquence pour demander le Saint-Esprit? Oh non, la prière que Dieu agrée, le petit enfant peut la faire. Elle ne se compose pas nécessairement de beaucoup de paroles. Une seule suffit, moins qu'une parole, un cri, un soupir, un élan du cœur, des larmes. Si le cœur y est, tout le cœur, car c'est au cœur que Dieu regarde, et s'il le voit humilié, et brisé par le sentiment de sa culpabilité, las du joug odieux de Satan, et sincèrement désireux d'en finir avec le péché, avec tout le péché, sans tentation d'en soustraire un peu au regard de Dieu pour continuer à le caresser en secret. S'il voit que l'on attend pas seulement du Saint-Esprit le sentiment du pardon des péchés, mais aussi l'expulsion du péché, non seulement la consolation, mais la sanctification, si en un mot cette demande naît de cette tristesse selon Dieu qui produit la repentance que réclamait Jean-Baptiste et plus tard Pierre le jour de la Pentecôte, lorsqu'il disait « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit », alors cela va bien. Le Seigneur peut entrer dans son temple. On lui en ouvre les portes, on le laisse libre d'en chasser les profanateurs. On s'est livré sans condition. Il entrera certainement, le Saint-Esprit sera donné, il se mettra à l'œuvre pour détruire les autels des idoles et relever celui du vrai Dieu. Oui, aussi certainement que Dieu est, cette promesse aura son accomplissement, car c'est bien d'elle, tout particulièrement, qu'on peut dire qu'elle est oui et amen en Christ. C'est bien d'elle qu'on peut dire aussi, les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera pas. Elle est un rocher inébranlable sur lequel chacun peut appuyer sa prière avec pleine confiance. C'est le rocher de la fidélité et de la bonté infinie de Dieu. Si un enfant, est-il dit, demande du pain à quelqu'un d'entre vous qui soit son père, lui donnera-t-il une pierre? S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? S'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Que voulez-vous de plus clair et de plus certain? Dieu se compare à un Père d'entre les hommes et assure qu'il ne fera pas ce que le Père le plus barbare ne voudrait pas faire lui-même. Un enfant a faim et demande à son Père un peu de pain ou de viande, c'est-à-dire ce qui est indispensable à la vie. Cet homme, ce père, que vous le cherchiez dans une caverne de brigands ou dans quelqu'une des peuplades les plus féroces, ce père, pour apaiser la faim de son enfant, lui donnera-t-il une pierre, un serpent ou un scorpion? Y a-t-il un tel homme sur le globe? Je sais que l'homme est bien mauvais et que notre pauvre terre est le théâtre de bien des atrocités, mais je me demande si jamais pareille monstruosité l'a souillé, si jamais père fut assez dénaturé pour se jouer ainsi de son enfant. Eh bien, et j'ose à peine le dire, mais cette parole m'y autorise, Dieu consent à être accusé de cette cruauté s'il refuse son esprit à quiconque le demande sincèrement. Que dis-je? Il consent à être regardé comme pire que ce Père, car de lui, du Père céleste, du Père qui est amour, du Père de Jésus-Christ, on a droit d'attendre infiniment plus que d'un homme pécheur. Et d'ailleurs, le mal produit par le crime de ce Père supposé ne serait pas comparable avec celui que son refus causerait. La mort du corps serait la suite de l'un, la mort de l'âme, la mort éternelle, la conséquence de l'autre. Je ne dirai donc pas, parce que Dieu est bonté, amour, tendresse, fidélité, cette promesse est oui et amen en lui. Je dois dire, en osant à peine prononcer de tels mots, parce que Dieu n'est pas le pire des pères, parce qu'il n'est pas dénaturé, cruel et menteur. L'esprit sera donné à quiconque le demande. Ainsi donc, parce que Dieu est Dieu, et aussi longtemps qu'il sera Dieu, tout homme sincère dans son désir pourra, au nom de cette parole, réclamer le Saint-Esprit et dire à Dieu avec une humble hardiesse, « Il est écrit, tu as dit, Seigneur, voilà ce que tu as déclaré. Eh bien, il faut maintenant que tu accomplisses ta promesse, afin de montrer que tu n'es pas homme pour mentir, ni fils de l'homme pour te repentir. Que voulez-vous donc de plus certain, âmes tremblantes et anxieuses? Pouvez-vous encore hésiter à demander et douter de l'accomplissement de la promesse? Ne sentez-vous pas que vos doutes sont l'injure la plus grave que vous puissiez faire à Dieu? Ne sentez-vous pas que vous l'assimilez à ce Père qui ne se trouve probablement pas sur la terre? Mais, dites-vous peut-être, j'ai demandé, demandé souvent, depuis longtemps, et sans obtenir le Saint-Esprit. Je désire sincèrement, bien que trop faiblement encore, être délivré du péché. J'en gémis, je crois, je désire croire. Pourquoi Dieu ne tient-il pas sa promesse? Dieu n'a pas promis de donner immédiatement. Quant au temps, il se réserve le droit de le fixer pour le don du Saint-Esprit, comme pour toute autre grâce. Il entend être absolument libre sous ce rapport. Est-ce caprice de sa part, volonté arbitraire et tyrannique, plaisir de faire attendre ou désir de se faire valoir? Non, c'est par sagesse, c'est par bonté, pour des motifs tirés, non de lui, mais de vous, en vue même du succès de son œuvre dans votre âme. Lui qui nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes, peut seul fixer le temps convenable pour l'exaucement de la prière. Mais le temps n'est-il pas toujours convenable pour cela? Non. Suivant le caractère, les dispositions spirituelles ou des circonstances dont lui seul a la connaissance, il doit faire passer les uns plus vite, les autres plus lentement, de l'état de servitude dans celui de liberté et d'adoption. Vous avez, vous qui attendez depuis longtemps, vous avez probablement besoin de cette école de patience, de résignation et d'humiliation. Vous n'êtes peut-être pas encore descendu assez bas dans le sentiment de votre misère et de votre indignité. Exaucé trop vite, vous en concevriez peut-être de l'orgueil qui compromettrait l'œuvre de Dieu. Peut-être auriez-vous peu de reconnaissance pour un bienfait trop vite obtenu. Peut-être aussi y a-t-il encore en vous quelque interdit que Dieu veut vous faire découvrir. Vous dites que vous attendez Dieu, et c'est Dieu qui vous attend. Quoi qu'il en soit, cet état dans lequel vous êtes, ces dispositions, ces désirs, cette attente, ces aspirations, ce trouble, cette angoisse, ces soupirs, tout cela est déjà l'œuvre du Saint-Esprit agissant sur vous. Vous qui êtes à l'école du Seigneur, l'école est pénible, mais elle est salutaire. Ce n'est pas l'affranchissement par le Saint-Esprit, mais ce n'est déjà plus l'esclavage du péché. En tout cas, ce n'est plus la mort. Vous êtes réveillés, vous marchez. Vous êtes à l'entrée de la voie étroite. Votre état est un noviciat spirituel analogue à celui des apôtres avant la Pentecôte, durant les 3 années du ministère de Jésus-Christ. Comme eux, durant le temps qui précéda la Pentecôte, persévérez dans la prière, soyez fidèles dans le peu qui vous est confié, regardez à Jésus, demandez-lui de croire toujours mieux à son amour. Dites-lui, « Je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. » Et pour vous aussi, luira un jour de Pentecôte dont vous pourrez dire, « La voici l'heureuse journée qui répond à notre désir. » Peut-être sera-ce dans un an, peut-être dans un mois, peut-être dans quelques jours, peut-être aujourd'hui même, si le moment convenable est arrivé. Oui, aujourd'hui, dans ce moment où je parle, si dans le secret de vos cœurs, fort de la promesse de Dieu, vous dites au nom de Jésus-Christ, « Mon Dieu, donne-moi le Saint-Esprit, qu'il fasse son œuvre, toute son œuvre en moi. » Oui, il se peut que dès aujourd'hui vous l'obteniez. Il y a un certain nombre d'années, dans une petite salle bien rapprochée de celle-ci, un pasteur qui instruisait quelques jeunes gens en était venu dans ses explications à la promesse que nous méditons dans ce moment. Il pressa ses jeunes auditeurs de prier immédiatement, en ajoutant qu'il pouvait être exaucé immédiatement aussi. L'un d'eux, sans être aperçu ni de ses amis ni de son pasteur, vu et entendu de Dieu seul, saisit cette promesse et dit « Seigneur, tu peux maintenant », et le jeune homme fut entendu. Il reçut l'assurance qu'il avait été exaucé, et dès lors l'Esprit a fait son œuvre en lui. Le jeune homme est devenu homme. À son tour, il parle aux hommes et leur expose les promesses de Dieu. Mais quand il en vient à celle-ci, c'est avec une émotion toujours renouvelée. Il lui semble que ce qui lui a donné la vie doit la donner à tous les autres et qu'il est impossible de rester insensible ou hésitant en présence de cette déclaration. Oh, mon cœur tressaille de joie à la pensée que, peut-être dans ce moment, dans cet instant, un cœur devient à son tour le temple du Saint-Esprit. Peut-être dans cet instant, le ciel retentit des chants des anges parce que le nombre des enfants de Dieu s'est accru. Ah, courage, mon nouveau frère! Bon courage, celui qui est désormais en toi est plus puissant que celui qui est contre toi. Tu auras des angoisses au monde, des angoisses contre le péché, mais bon courage, Jésus, par le Saint-Esprit, a vaincu le monde hors de toi. Il peut le vaincre, il le vaincra en toi. »